Radio Okapi.
La jeunesse congolaise est au cœur de plusieurs défis qui touchent aujourd'hui la société. Santé publique, cohésion nationale, sécurité, mais aussi lutte contre la désinformation et engagement citoyen. Dans un contexte où le pays fait face à des crises qui exigent à la fois responsabilité, mobilisation et solidarité, les jeunes ne sont plus seulement appelés à observer. Ils peuvent aussi devenir des acteurs des solutions dans leur communauté. Dans la première partie de ce magazine consacré à la jeunesse congolaise, direction Beni, au Nord Kivu, où la riposte contre Ebola est confrontée aux rumeurs et à certains actes de résistance. Face à la désinformation et à la méfiance, les jeunes sont appelés à jouer un rôle dans la sensibilisation et à contribuer à rétablir la confiance au sein de leur communauté. Dans la seconde partie, nous resterons avec cette même jeunesse, mais autour d'un autre enjeu, celui de son implication dans la vie de la nation. À Kinshasa, une journée d'échange placée sous le thème « Une jeunesse unie, une patrie debout, une souveraineté non négociable » a réuni plusieurs structures de jeunes autour des questions de cohésion nationale, de souveraineté et des situations sécuritaires dans l'est du pays. Deux réalités différentes, mais une même question. Comment la jeunesse congolaise peut-elle transformer son énergie, sa proximité avec les communautés et son engagement en action concrète face aux défis du pays ? À suivre dans ce numéro des 100% jeunes. Pierre Diassinois en assure la mise en onde et grâce à Mzati à la présentation. Bonjour à tous et bienvenue.
Votre connexion internet est trop lente ? Radio Okapi.net vous propose un service gratuit. Les alertes mails. Toute l'actualité de la RDC, le sport, la politique, l'économie, la culture et les offres d'emploi. Faites votre choix, vous recevrez chaque soir les infos dans votre boîte mail. Les alertes mail, c'est gratuit. Radio-Okapi.net, à votre service.
À Beni, dans la province du Nord Kivu, les rumeurs et les actes de résistance compliquent la riposte contre Ebola. Face à cette situation, les jeunes, parfois impliqués dans certains incidents, sont aussi appelés à devenir des acteurs de la sensibilisation. Comment peuvent-ils contribuer à rétablir la confiance et à freiner la désinformation? C'est ce que nous allons voir dans cette première partie des 100% jeunes. Et c'est avec Marc Marofimbo, depuis Beni. Bonjour Marc.
Bonjour, grâce à Mzati. À Beni, plusieurs incidents impliquant des équipes de riposte contre Ebola ont été signalés ces dernières semaines. Dans certains quartiers, des agents ont été agressés alors qu'ils intervenaient auprès de familles touchées ou suspectées de l'être. Des incidents dans lesquels des jeunes sont parfois impliqués. Pour les acteurs de la jeunesse, cette situation appelle surtout à davantage de responsabilité. Azayas Mokondi estime que les jeunes doivent s'informer auprès de sources crédibles et contribuer à sensibiliser leur communauté plutôt que de relayer les rumeurs. Azayas Mokondi.
De prime abord, je voulais d'abord souligner que c'est une preuve d'une conscience collective malheureusement. Et ceux-là qui sont censés en réalité éduquer la population, renforcer la morale de la population, à thème notamment d'information, malheureusement, tombent également sous les jougs de cette inconscience que nous déplorons. C'est également une naïveté. Une naïveté pourquoi ? Parce que c'est pas pour la première fois que cette zone soit frappée par ce genre d'épidémie. Vous vous souvenez bien dans le, je crois, 2017 et 2018, ces années certainement, nous avons perdu beaucoup de nos compatriotes à la suite de cette maladie, de cette épidémie. Et la raison, c'est que d'abord, la plupart des victimes l'ont été parce que on n'avait pas vraiment beaucoup pris la conscience sur la maladie. Il y avait certainement certaines failles liées à l'information, à la communication. Mais pour cette fois-là, pour cette seconde épidémie, je crois même la troisième, parce que il y a déjà une deuxième qui avait également été vite maîtrisée. Pour la troisième épidémie aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une certaine résistance de la jeunesse, de certains jeunes, pour ne pas parler, ne pas globaliser toute la jeunesse également, voilà, dans cette catégorie. Nous assistons à une résistance. Et nous nous demandons pourquoi les jeunes, certains bien sûr, veulent mettre le roux dans les travails certainement de équipes, certainement de la riposte, ces personnels soignants, ça c'est, et qui se donnent d'ailleurs une bravoure, une preuve de patriotisme, qui donnent également de leur vie pour que certainement ils puissent protéger une grande partie de la population. La fois dernière, on avait compris qu'il y avait la manipulation politique, il y avait aussi la suffisance en termes de formation, comme je l'ai dit. Mais pour cette fois-ci, la première question, tout ce que je m'interroge comme jeune, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mes pères, ça veut dire ceux de ma génération, sont ceux-là aujourd'hui qui constituent l'obstacle aux équipes du Laripo certainement de faire complètement leur travail. Pour moi, c'est des ignominies inacceptables, de l'intolérance inacceptable. Et je crois parfois, c'est parce que nous faisons face également à une entité ou à une population, mieux à une communauté qui sape de plus en plus des valeurs, qui prend de plus en plus, qui normalise de plus en plus des anti-valeurs, qui normalise de plus en plus des actions populistes. Vous retrouverez certains parce qu'ils ne se retrouvent pas dans la riposte, parce que apparemment c'est aussi l'approche que les gens ne sont pas en train de voir. Parce que il y en a qui veulent travailler dans la riposte parce qu'on estime qu'il y a de l'argent, il y a des moyens, beaucoup de moyens qui ont été alloués dans la riposte, et certains qui veulent certainement se retrouver, ils créent des tumultes, pour que, en final, leur recherche, qu'il y ait des conciliabules et que, ils soient également introduits, dans l'équipe de sensibilisation. Et pour moi, c'est là que maintenant l'État devrait, en réalité, intervenir. Parce que, pour des situations comme ça, l'État devrait s'imposer. Nous avons vu, la fois dernière, une vidéo où nous voyons une maman en train d'arrêter une voiture, empêchant certainement aux équipes de riposte d'évacuer, apparemment est malade. Et selon ce que nous suivons la vidéo, apparemment, le malade, il s'agissait de son enfant. Et pour lui, Ebola n'existait pas. Mais nous nous demandons, si Ebola n'existait pas, qu'est-ce qui fait qu'il y a une multiplication des décès dans notre communauté? Je crois que ce qui devrait d'abord commencer par nous interroger. Parce qu'il y a des faits qui sont palpables. Les gens meurent. Les gens continuent certainement à enregistrer. Je voulais également peut-être ramener ma réflexion dans le sens où ces individus estiment que c'est une maladie utopique. D'accord, elle est utopique. Mais interrogeons-nous maintenant. Qu'est-ce qui fait que les gens meurent? Ceux-là qui ont été à l'université, à l'école, vos enfants que vous avez fait scolariser, pour lesquels vous avez payé les études, pour étudier, pour apprendre le corps humain, savoir également comment fonctionne le corps humain. Ces individus vous disent qu'il y a une épidémie qu'on appelle Ebola, qui est certainement en train de tuer les gens. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que vous vous opposez à ce que, certainement, vos enfants, pour qui vous avez payé les études, ils vous disent que c'est la maladie? Quelle inconscience, quel niveau d'inconscience? Donc, moi je pense que c'est un problème d'inconscience. Malheureusement, ça touche tous les secteurs. Le comble, c'est que ça vient toucher aussi les secteurs sanitaires. Et ici, il faudrait que l'État s'impose. On ne blague pas avec les vies humaines. Parce que l'État a le monopole de protéger les vies humaines. De la même façon que vous le verrez, vous verrez l'État, notamment en train de protéger l'intégrité territoriale lorsqu'il y a une menace d'agression, les cas de l'F-123 de l'armée rwandaise, ou mieux les cas des Codeco, des ADEF, etc. De la même manière, l'État a les responsabilités de pouvoir protéger sa population lorsque celle-ci est attaquée par une menace, lorsque celle-ci fait face à une menace du point de vue sécuritaire, plutôt sanitaire. Alors, quels sont les mécanismes? C'est pourquoi là, l'État devrait renforcer des mécanismes de protection. On ne doit pas simplement continuer à renforcer une méfiance à travers, n'est-ce pas, des dialogues qui ne payent pas, finalement. Mais pour moi, ce comportement serait normal pour les populations de Goma, pour les populations de Bukavu, peut-être pour les populations de provinces ou des zones qui n'ont jamais été touchées par cette épidémie. Mais le fait des gens pour que cette épidémie ait déjà eu lieu, ait déjà existé dans cette zone, d'ailleurs, à décimant la grande partie de notre population, moi, Moi, j'ai connu des pertes à vie humaine dans ma famille. J'avais connu une perte énorme lors de la dernière apparition de 2017-2018. J'ai une grande sœur qui avait perdu la vie et j'ai des remords. Ma petite sœur propre avait été internée au niveau du CTE ici pendant beaucoup de temps. J'ai senti que cela avait provoqué du point de vue psychologique dans ma tête et dans le reste de la famille. Donc, lorsque j'ai appris que nous faisons face à cette maladie alors qu'elle était encore au niveau de l'Ituri, je pris des précautions. Je n'avais pas besoin certainement de l'argent pour commencer à sensibiliser les autres. C'est également là où intervient le volet communautaire. Ça veut dire, ceux qui ont un peu la conscience, ceux qui sont conscients, ceux qui sont conscients, qui sont conscientisés, qui ont toutes les informations possibles sur l'existence de la maladie, je crois qu'ils ne pouvaient pas également attendre qu'ils soient appelés par les équipes de la riposte, on leur donne 1000 francs à 2000 francs, qu'ils sillonnent les zones, certainement, pour commencer à parler à ceux-là qui n'arrivent pas encore à croire de l'existence de la maladie, voilà, pour commencer à les sensibiliser. Donc, cela devrait en réalité faire preuve d'un certain patriotisme, hein, pour ceux-là qui ont encore la conscience.
Autre enjeu, la prise de conscience face aux risques liés à Ebola. Pour Maître Fabrice Moulohali, jeune leader à Beni, les actes de violence contre les équipes de riposte ne font qu'affaiblir la réponse à l'épidémie. Il appelle les jeunes à devenir de relais de prévention dans leur famille et leur quartier. Fabrice Moulohali.
Déjà, il faut dire que qu'à l'annonce de cette maladie, pour cet épisode, je me disais que Beni, Butembo seraient les endroits où la maladie ne tarderait pas à être maîtrisée parce qu'exactement, ces entités n'en sont pas à leur première expérience avec la maladie à virus Ebola. Le comble, le paradoxe, c'est de voir que, alors que la même population a quand même subi les affres de cette maladie par le passé, mais est arrivée à la combattre par le passé, aujourd'hui, c'est comme si on était dans une nouvelle situation. On est parti de la case départ et c'est comme si on n'a jamais connu d'Ebola ici. Et les gens se comportent de manière, en tout cas, étonnante. C'est regrettable. Regrettable parce que si, je ne sais pas si quelqu'un partait à l'hôpital aujourd'hui et qu'on lui dise qu'il a la malaria, s'il résisterait ou s'il s'énerverait. Donc, une maladie reste une maladie. Quoi qu'il en soit, que ce soit du sida, que ce soit du diabète, du cancer, ça reste une maladie. Qu'on te dise que cette maladie existe, il n'y a aucun problème. Le mien, c'est de dire, ok, la maladie existe, comment faire face? Et ne pas s'inscrire dans cette logique, c'est qu'on est assimilable à des animaux. Parce que même les animaux, quand ils sont malades, ils comprennent, ils sont affaiblis. Et quand vous amenez un vétérinaire, ils coopèrent. Et donc, j'estime que le milieu de Beni, Butembo et les avirons devraient être des milieux modèles dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. Ce comportement qu'on est en train d'observer chez certains, des poches de résistance, c'est vraiment un appel à cesser cette pratique-là, puisque ça constitue un danger public. Ne pas prendre au sérieux cette maladie, ce n'est pas prendre notre propre vie au sérieux, la vie de notre communauté, la vie de nos familles, et nous exposer au péril. Oui, la manipulation existe, puisque bon, dans chaque situation, que ce soit pour la guerre, que ce soit pour les maladies, chacun a des intérêts. Les intérêts peuvent diverger et certains peuvent décider de s'accrocher sur la maladie pour se taper X ou Y intérêts. Il est maintenant de la responsabilité de chaque citoyen de comprendre qu'il y a une possibilité que quelqu'un essaie de tirer de profit de cette maladie et induire la communauté en erreur. Et il faut dire stop à une pareille démarche de manière à ce que le combat contre la maladie soit un combat collectif sans détour.
Les précédentes épidémies d'Ebola dans la région devraient également servir de leçon, estime Maître Omar Kavota. Pour cet acteur engagé dans la sensibilisation communautaire, les fausses informations peuvent rapidement alimenter la méfiance. Il encourage les jeunes à vérifier les informations et à privilégier les sources fiables. Omar Kavota.
En 2019, lorsqu'il s'observait cette résistance farouche contre les équipes de riposte, lorsque tout le discours allait dans le sens de dire que Ebola était une invasion et que Ebola était une affaire de business, lorsque il y avait une agitation contre les équipes de riposte, nous avions pensé à une approche une approche des volontaires. Et nous avons institué ce que nous avons appelé en son temps comité des volontaires d'appui à la riposte contre Ebola. C'était une structure composée de leaders, de effluasseurs, de personnes de notoriété de toutes les couches, les jeunes, les femmes, les leaders religieux, les leaders socio-communautaires, les leaders socio-économiques, et tous sans être payés par les différents partenaires engagés dans la riposte contre Ebola, nous nous sommes mis à mobiliser le nôtre. Nous nous sommes mis à mobiliser le membre de communauté pour dire Ebola, tant que c'est une affaire qui nous concerne, tant que c'est une affaire, c'est une maladie qui peut nous consumer, nous pouvons alors mettre fin à ce qui est dit comme affairisme autour d'Ebola. Si nous nous engageons nous-mêmes à observer les mesures barrières, si nous nous engageons nous-mêmes à lutter contre tout ce qui peut propager cette épidémie, alors si réellement c'est une affaire de business, si c'est une affaire qui enrichit certains en détriment des autres, alors cette affaire va finir parce qu'il n'y aura plus de cas. Nous nous sommes engagés à avoir zéro cas. Et grâce à cet engagement, grâce à cette compréhension, nous sommes arrivés à amener une très bonne partie à comprendre que cette épidémie est possible à vaincre. Et ça a contribué à ce qu'il y ait moins de résistance. Et plus il y a eu moins de résistance, plus les cas pris à charge ont été guéris et l'expansion de la contamination a baissé ou a cessé et on est arrivé à vaincre cette épidémie. Il est possible de rééditer ces exploits et d'arriver à endiguer cette épidémie. Tout ce qu'il faut arriver à reconnaître et à accepter, c'est que la maladie à virus Ebola est une réalité. Cette triste réalité à laquelle nous sommes confrontés dans nos provinces. Et pour arriver à la vaincre, il faut un véritable engagement communautaire des jeunes, des femmes, des hommes, pour arriver à endiguer cette épidémie. Ne soyons pas naïfs, ce n'est pas avec la résistance contre les équipes de riposte, c'est pas avec la résistance contre les équipes soignantes de cette maladie à virus Ebola que nous pouvons arriver à la vaincre. Nous avons l'expérience de ces anciennes épidémies, la 12e ou la 13e, ces épidémies qui ont ravagé des familles, qui ont consumé des familles nombreuses dans cette zone, mais qui ont été vaincues parce que tous, on est arrivé à comprendre que c'est une maladie qu'on peut vaincre à travers l'observance des mesures barrières, à travers l'appui aux équipes de riposte et à travers notre engagement. Certains défis aujourd'hui sont réels et il faut les relever avec le concours de l'autorité nationale. C'est par exemple la prise à charge effective de personnel engagé dans la riposte contre la maladie à virus Ebola en province. Lorsque nous observons qu'il y a du personnel soignant, qu'il y a du personnel engagé dans la terrain digne et sécurisé, lorsqu'on observe les chauffeurs ou tous ceux qui interviennent pour le lavage des mains sur le long des routes, impayés depuis plus de 3 mois, cela ne devait pas s'observer. Surtout que quand on apprend qu'il y a des millions qui sont mobilisés pour cette épidémie, donc on s'interroge à quoi ça sert si cela n'est pas pour prendre à charge le personnel engagé à première ligne. Et au jour d'aujourd'hui, il y a aussi lieu d'appuyer des structures médicales à ramener cette gratuité de soins pour que les communautés soient encouragées à aller vers les structures médicales. Ce sont des stratégies pour amener à ce que les gens comprennent qu'il faut aller là où on doit être pris en charge pour être guéri. Il est aussi possible que, en ce jour, nous puissions intensifier les campagnes de sensibilisation à travers les médias, à travers les forums communautaires, à travers des dialogues sociaux. Et c'est ça qui peut amener à ce que la population s'approprie cette riposte. Il est aujourd'hui important de décentraliser cette riposte. Bien que nous ne sommes pas opposés que le niveau central, le ministère national de la santé, prenne les leads dans la gestion de cette épidémie, il est important qu'au niveau local, la décision soit décentralisée. Que les centres de santé soient responsabilisés, que les autorités urbaines, les autorités provinciales jouent le premier rôle et que les leaders communautaires, les leaders d'opinion, ces chefs religieux, ces leaders des jeunes, ces leaders de femmes, ces chefs coutumiers, ces influenceurs soient mis à contribution pour sensibiliser leurs frères, leurs pères, leurs administrés, leurs membres de famille.
Pour la division provinciale de la jeunesse du Nord Kivu, les jeunes disposent justement d'un atout majeur, leur proximité avec les communautés. Ils peuvent donc jouer un rôle déterminant dans la sensibilisation, à condition de disposer de moyens suffisants et de considérer cet engagement comme une responsabilité citoyenne. Guy Kibira.
S'il y a aujourd'hui une certaine maîtrise de la situation, c'est parce que nous avons mis en place une task force composée essentiellement par des jeunes qui sont des représentants, coordonnateurs de différentes structures qui sont bien connues ici en ville de Beni, entre autres le conseil urbain de la jeunesse, le conseil provincial de la jeunesse, le parlement des jeunes, il y a des structures comme Pôle et Kivu et tant d'autres, y compris même certaines structures informelles qui sont localisés dans les mouvements citoyens, qui sont en train de travailler et au prix de presque de leur vie, parce que il y a peu, dans cette ville, on a failli, par exemple, brûler la nouvelle JP, une dotation du Fonds des Nations Unies pour la population, dans pareille situation, et ceux qui ont sauvé la situation, ce sont des jeunes qui se retrouvent dans cette task force, qui travaillent sans moyens. Et donc, aujourd'hui, nous pensons qu'il est même l'occasion de plaider pour que les différents partenaires qui ont un peu de moyens pour apporter une réponse à cette maladie à virus Ebola d'origine Boudibudio, de veiller à ce que la task force obtienne les moyens nécessaires, parce que justement l'avantage avec la task force, c'est qu'ils viennent des structures qui ont ancrage communautaire, des structures de la société civile et de la jeunesse. Et en investissant assez de moyens dans ces groupes, vous savez que cette maladie exige une réponse à base communautaire, c'est-à-dire des sensibilisations des gens, des terrains qui vivent au quotidien avec des populations et qui peuvent partager avec des informations correctes avec ces populations, qui les connaissent et qui les font confiance. Voilà pourquoi je préfère que tous les moyens qui sont mis à la disposition pense également orienter une partie vers la task force. Nous n'ignorons pas, bien sûr, qu'il y a d'autres personnes, malheureusement, en tout cas, même si certains peuvent être des jeunes, nous n'ignorons pas que les gens pensaient que c'était une opportunité pour obtenir du travail ou bien pour obtenir de l'argent. Écoutez, je voudrais ici m'inscrire en faux pour ceux qui pensent que cette maladie est une invention pour que les gens obtiennent du travail et les moyens. Tout le contraire, cette maladie est sérieuse et elle a décimé des populations dans la province sœur de l'Ituri. Et si l'on ne prend pas garde et que l'on continue des pratiques telles que ce que j'ai vu très récemment à Butembo, les gens se permettent de profaner les cadavres décédés de la maladie, manipuler ses corps, eh bien, je dis que c'est non seulement suicidaire, ces actes, mais ça pourrait peut-être plus tard être qualifié d'un crime de guerre et un crime contre l'humanité. Pourquoi? Parce que ça va au-delà de se suicider, parce que on va larguer des personnes qui ont manipulé un corps affecté dans la population et ça va décimer des populations. Figurez-vous que Beni est non seulement vécu par des populations autochtones, mais il y a aussi tous les déplacés venus de Goma, de Rutshuru, de Nyiragongo, de certains d'une partie de Lubero. Il y a aussi des retournés qui sont revenus, par exemple, de Kamango Nobili, d'autres de Rwenzori. Toutes ces populations concentrées ici en ville de Beni, si on ne fait pas attention, eh bien, nous allons dénombrer un nombre beaucoup plus élevé de morts. N'oubliez pas de suivre les statistiques qui démontrent que ces quelques derniers jours, il y a une évolution très remarquable des cas confirmés et des décédés. Alors, dans pareille situation, qui est celui-là qui ne va pas prendre conscience que, eh bien, nous risquons de tomber dans l'époque des Covid-19 où on va finalement confiner tout le monde. Regardez le fait de couper la voie Beni, donc partie nord vers Goma et de Goma vers Beni, ce que ça fait. Le fait d'avoir coupé la frontière Kasindi-Ouganda, ce que ça fait à des populations. Il en est de même avec d'autres pays qui nous entourent et d'autres provinces. Aujourd'hui, nous sommes presque en train de vivre en situation d'asphyxie dans cette ville où on ne peut pas recevoir très régulièrement des populations venues d'ailleurs ou que des populations d'ici ne peuvent pas être reçues ailleurs parce que les frontières sont déjà fermées. Pourquoi ? Pour éviter la propagation. C'est donc pour moi l'occasion de lancer un message en disant la division provinciale de la jeunesse a accompagné la mise en place d'une task force qui est un cadre de plus dans le mécanisme mis en place par le gouvernement provincial, qui travaille avec le mécanisme provincial en termes de réponse à cette problématique. Nous avons même l'intention d'organiser davantage la communauté Yuripot pour que les filles et garçons qui portent la voix des jeunes vers des instances décisionnelles prennent également cette question à cœur et qu'ils puissent mobiliser d'autres. Certains sont déjà impliqués, mais nous pensons qu'il faut élargir les cadres au regard de la population qui est concentrée dans cette ville, y compris la ville de Butembo, pour essayer de contenir, puisque plus tôt nous allons nous impliquer et passer des bons messages, eh bien, plus tôt nous allons contenir cette situation et la situation va redevenir normale. Je mets en garde toute personne qui n'a pas suffisamment d'informations et qui se permettrait de communiquer. Il risque même, sans intention aucune, de donner de fausses informations et qui peuvent nous plonger tous dans la dérive. C'est ça mon message, de ne parler que de ce que l'on connaît et quand on ne connaît pas, approcher ceux-là qui ont la maîtrise de la situation et qui savent quelle communication apporter à des populations pour éviter que les messages soient mal perçus et que, au contraire, des populations adoptent des pratiques ou des attitudes non responsables.
Dans les zones touchées, les autorités et les partenaires de la Riposte poursuivent les activités de sensibilisation. Mais au-delà des messages officiels, la confiance se joue aussi au sein des quartiers et de familles. À Beni, les jeunes sont ainsi placés face à une responsabilité particulière, contribuer à faire circuler une information fiable plutôt que des rumeurs et accompagner les équipes engagées contre Ebola plutôt que de leur faire obstacle. Voilà tout, grâce à Mzati.
Merci beaucoup Marc Marofimbo pour toutes ces explications.
Sana tala nakati ya motema na yo Na yeba nini yezo tungi saka yo Mwana mobali ya lela kate Seme bako pezo simbate Me je sore koma teme We we do we yo I don't want trouble with my baby girl No way Kari mi ya we I never take your love for granted Cherche que la paix, mon cerveau veut juste dormir. Mon cœur a besoin d'amour, l'argent me domine l'esprit. Ton bon soin qui est tanné, et rappelez-moi, il lobby. Billy, tu as les mentalis. Toi, ça qui dit la, toi, ça qui dit la, toi, ça qui dit la, Zambi.
Vale, mon gars, vale, mon gars.
Vous êtes à l'écoute du magazine 100% Jeunes sur Radio Okapi, la fréquence de la paix. Et nous entamons la seconde partie de ces numéros avec une journée d'échange organisée le 20 août à Kinshasa à l'initiative du député national Joseph Nkoy, rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale dans le cadre du Camp de la Patrie. Une rencontre placée sous le thème « Une jeunesse unie ». Une patrie debout, une souveraineté non négociable, consacrée notamment à la place des jeunes face aux enjeux de cohésion nationale et de sécurité dans l'est du pays. Par la même occasion, Joseph Nkoy Wembo a sensibilisé les jeunes à la campagne des collectes de signatures en faveur de la pétition pour la reconnaissance internationale du génocide, les génocides congolais pour des raisons économiques. Parmi les participants, Sefas Ngolé, président du Parlement des jeunes de Kinshasa, estime que la jeunesse doit être davantage associée aux réflexions sur l'avenir du pays. On l'écoute.
La journée, elle est importante pour nous, la jeunesse, parce que de prime abord, nous représentons la plus grande quantité démographique de notre pays, plus de 65% composée de la jeunesse. Une autre importance, c'est que la jeunesse doit être impliquée. Nous devons être entendus et c'est l'initiative qu'a pris l'honorable Joseph Nkoy en appelant la jeunesse. Et au courant de cette activité, nous avons interagi avec l'honorable sur les questions sensibles concernant notre pays, les questions de paix, de sécurité, de l'implication de la jeunesse et des initiatives concrètes que devrait prendre le gouvernement pour mettre fin à cette barbarie qui sévit à l'est de la RDC. Alors, le camp de la patrie, c'est le camp des patriotes, le camp de ceux qui aiment réellement la RDC, sans couleur politique, sans intérêt personnel, sans agenda caché. Voilà l'essence du camp de la patrie. Et ce camp réunit les patriotes pour réfléchir sur le vrai changement du pays et non réfléchir sur la complaisance pour satisfaire certains besoins, certains projets, certains agendas mesquins et atroces contre la patrie.
Et comment vous, jeunes, vous allez vous comporter après cette activité?
Alors, la jeunesse est appelée à signer la pétition sur le génocide. Nous devons nous mobiliser, la jeunesse. Après, ici, c'est une série de mobilisations qui doit continuer. Une conscientisation à travers des conférences sur les réseaux sociaux, afin que la conscience soit pleinement prise pour que cette question soit portée par la jeunesse, pour que nous trouvions des solutions, que ce soit en interne et aussi en externe, pour signer cette pétition et la reconnaissance surtout du génocide.
Un petit message à tous les jeunes de la RDC par rapport au patriotisme.
Mon message serait d'aimer le pays, de voir le futur de la RDC et de nous impliquer. Le futur de la RDC, c'est maintenant. On doit construire ce futur, nous ne devons pas chanter des slogans sur ce futur, mais ce futur, nous le construisons ensemble avec toutes les composantes, que ce soit la jeunesse, que ce soit les vieux, les adultes, et que nous nous préparions à la relève et que nous nous préparons à mieux rendre service pour l'intérêt général de notre pays.
On va maintenant écouter l'initiateur de cette rencontre, Joseph Nkoy Wembo, député national, élu de Katakokombe dans les Sankuru et rapporteur adjoint de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale. Il revient sur les enjeux de cette mobilisation de la jeunesse autour de la défense de la patrie, de la situation sécuritaire dans l'est du pays et de la campagne pour la reconnaissance internationale du génocide.
L'invité.
Joseph Nkoy, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi la motivation aujourd'hui de réunir les jeunes dans un cadre d'échange sur le patriotisme?
La motivation principale, c'est le fait que notre pays traverse une période particulièrement cruciale de son histoire, marquée par l'agression, une énième agression du Rwanda. Et pour résoudre cette question de manière définitive, il faudrait qu'au-delà des efforts qui sont consentis par le président de la République et les autres institutions de la République, que l'ensemble du peuple soit mobilisé, l'ensemble du peuple soit engagé pour que nous puissions efficacement défendre notre pays. Vous savez que l'insécurité à l'est du pays est principalement causée par les velléités dont se nourrit le Rwanda sur les territoires congolais et que de cette façon, nous ne voulons pas que nous puissions résoudre de manière temporaire cette question, mais que la question soit résolue de manière définitive. Et pour cela, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de l'accompagnement de toute la jeunesse, de tout le peuple congolais, pour que ensemble nous puissions constituer les camps de la patrie, qui est ce camp qui défend les intérêts de la République, ce camp qui privilégie la cohésion nationale, ce camp qui fait à ce que nous puissions efficacement et durablement, ou sinon de manière définitive, mettre hors état de nuire notre agresseur.
Une des questions qui vous a été posée est celle de savoir qu'est-ce que cette initiative peut changer, parce que les jeunes ont rencontré des ministres, des députés dans ce genre d'initiative, mais après il n'y a pas eu d'impact sur le terrain. En quoi votre initiative est différente de celle d'autres depuis plusieurs années?
Oui, cette initiative a une particularité, en ce que nous entreprenons une série d'actions de conscientisation, de mobilisation avec un objectif majeur, c'est mettre hors état de nuire notre agresseur qui est le Rwanda. Nous allons continuer le travail. Aujourd'hui, ce n'était que l'activité de lancement ici à Kinshasa. Nous allons, avec les moyens, la participation des uns et des autres, continuer cette campagne de mobilisation, cette campagne de conscientisation pour la défense de notre patrie face à l'agression du Rwanda.
Cette activité, vous l'organisez au moment où le dialogue est en cours d'organisation au pays. Quel a été votre message à tous ces jeunes que vous avez réunis par rapport à cette initiative, cette fois-ci du chef de l'État? Parce que vous-même, vous êtes député national.
Le dialogue tel que voulu par le président de la République doit être un dialogue entre les Congolais pour résoudre les problèmes des Congolais. Ça ne sera pas un dialogue qui sera considéré ou perçu comme un purgatoire des gens qui y ont sur leurs mains les sangs congolais. C'est un dialogue qui doit traiter des questions qui concernent notre pays et que cela doit se faire dans un cadre qui favorise justement la confiance, mais pas donner une occasion à ceux qui ont tué les Congolais de venir se blanchir. Il faudrait que ceux qui sont responsables des crimes odieux puissent répondre devant la justice nationale, devant la justice internationale, pour justement décourager quiconque oserait réfléchir dans ce sens.
Dans la foulée, Joseph Nkoyi, vous appelez les jeunes à signer la pétition sur la reconnaissance du génocide. Quelles sont vos attentes quant à ce?
D'abord, je tiens à féliciter vivement la très distinguée Père Mesdames et Madame Denise Inakiri Tshisekedi qui a initié cette pétition de reconnaissance internationale des génocides congolais. Que tous les Congolais, toutes les Congolaises puissent s'approprier cela parce que ce n'est pas une question de la première dame, mais plutôt une question nationale. Et que nous puissions récolter toutes les signatures qu'il faut pour que les démarches ou la lutte pour la reconnaissance de ces génocides soient effectives, de sorte que demain, ceux qui sont auteurs de ces crimes-là puissent répondre et que rien ne soit plus comme avant.
Un message à tous les jeunes,
c'est d'être pleinement engagé pour la cause de la patrie, d'être derrière le président de la République pour que ensemble nous puissions porter haut et fort cette lutte, ces combats-là de la défense de notre patrie face à ceux qui veulent sa balkanisation.
Joseph Nkoyi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir suivi ces numéros des 100% jeunes consacrés à deux enjeux qui interpellent directement la jeunesse congolaise. Son rôle dans la riposte contre Ebola à Beni au Nord Kivu et sa participation aux réflexions sur la cohésion nationale, la sécurité et la défense des intérêts du pays. Merci à Marc et Maro Fimbo pour la coproduction de ce magazine. La mise en onde a été assurée par Pierre Diassinois, la coordination et la présentation par Grace Amzati Masanzi, sous la supervision de Jean-Marc Matoaki Mofele et Dijano. Merci de votre fidélité et rendez-vous dans un prochain numéro de 100% jeunes sur la fréquence de la paix. Au revoir.